fréquence Mistral que vous écoutez et cette musique vous la reconnaissez, c'est l'heure de passer au jardin. Mais pour nous accompagner dans cette aventure, c'est Serge. Bonjour Serge.
Bonjour Alexia, bonjour à tous.
Alors, tout d'abord, pour commencer, comme d'habitude, un petit rappel sur ce que nous avons abordé il y a 2 semaines, Serge.
Donc, on avait parlé des plantes de terre de Bruyère. J'espère que vous avez fait un petit choix pour faire ça sur l'automne, quoi. Les grands arbres, pareil, faire pour l'emplacement à prévoir, mettre des piquets pour savoir tel arbre à tel endroit. C'est bien à faire. Les arbustes et les jardinières, pareil, le choix à prévoir. Les bambous, les grosses tranchées avec le polypropylène aussi, très important. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait vu la semaine dernière.
Et on avait également abordé les arbustes caducs, me semble-t-il.
Les arbustes caducs, oui, tout à fait. Bravo, Alexia.
Merci, j'essaye de suivre. Et passons à présent à l'émission du jour. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Serge?
Donc, l'époque de la plantation, parce qu'on va, on y arrive bientôt, hein, c'est l'automne. Donc, plantation, il y a les plantations en pot, on peut planter toute l'année, on va dire. Mais bon, à éviter quand il y a des grosses chaleurs, c'est pas très bien, on peut le faire, mais il faut arroser plus souvent. Quoi.
Qu'est-ce qui fait la spécificité des plantes en pot par rapport aux plantes en terre libre?
En pot, c'est-à-dire qu'elles sont déjà toutes enracinées, déjà dans des mottes et déjà prêtes à l'emploi, on va dire. Quoi.
Donc, c'est plus facile?
Pour moi, c'est un peu plus facile, oui. Je pense que la reprise est peut-être mieux aussi.
Donc on évite de les planter pendant la sécheresse, vous disiez.
Voilà, tout à fait. Il faut éviter les grosses chaleurs. Ce n'est pas recommandé. Quoi.
Et donc en ce moment, est-ce que vous estimez que c'est une grosse chaleur ou est-ce qu'on pourrait commencer dès à présent?
Là, je pense que la semaine prochaine, on pourrait commencer. Les chaleurs après vont baisser déjà après le 15 août. Bon, mis à part aujourd'hui où il y a 2-3 jours, ça fait un peu très très chaud. Les racines nues, comme tout le monde connaît. Racines nues ou tontines, on appelle ça, ça commence de fin octobre à fin mars, les plantations.
Ah, moi, je ne sais pas ce que c'est, les racines nues, qu'est-ce que c'est?
Racines nues, en fait, ce sont des arbustes, les rosiers, les arbres, tout ça que vous achetez à racines nues. Ce qu'il y a d'avantageux, c'est que le prix est nettement moins cher aussi.
D'accord.
Parce que vous allez acheter, je ne sais pas, un rosier en pot, ça va coûter entre 15 et peut-être plus, 15, 20, 25 euros des fois. Et racines nues, vous allez le payer moitié prix.
Mais je suppose que s'ils sont racines nues, il faut les planter très très vite alors.
Oui, après, dès que vous les achetez, il faut les planter le jour même ou le lendemain. Quoi. Il ne faut pas attendre une semaine ou alors les maintenir bien humides. Quoi. Après, je vous expliquerai la plantation, tout ça, ce qu'il faut faire exactement. Quoi.
D'accord.
Donc, on a dit plante en pot, donc 12 mois de l'année, surtout en période de grosse chaleur. C'est à ne pas faire, ce n'est pas très bien. Quoi. Et après, les racines nues ou les tontines, donc fin octobre, fin mars, pas plus tard, parce qu'après, la végétation démarre très vite quand même. Hein. Donc, la plantation, Alexia, c'est quoi la plantation?
Mettre la plante en terre.
Tout à fait, bravo. Donc, toujours faire un trou 2 à 3 fois comme le conteneur, plus gros, comme on avait parlé déjà plusieurs fois. Il faut le faire parce qu'autrement la plante ne poussera pas très bien. Donc faire un trou, même déjà, là vous pouvez déjà préparer, si vous avez des idées pour mettre des arbres, un massif de rosiers, préparez vos massifs, retournez la terre déjà avec un peu de fumure de fond, avec le motoculteur, préparez un endroit où vous allez faire un massif de rosiers ou de plantes vivaces, ça c'est bien. Si vous avez par contre des gros arbres, préparez un gros trou de 0,80 sur 0,80, mettre un peu de fumure au fond déjà, comme ça aura le temps de se préparer. Ou alors faire une tranchée si vous avez planté une haie printanière ou une grande haie défensive ou autre.
Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de faire des gros trous comme ça dans un terrain comme on peut avoir ici avec beaucoup de pierres?
Des fois, c'est vrai que c'est un peu dur. Il faut acheter, en fait, moi je conseille toujours aux personnes qui ont des jardins, acheter des manches style bêche ou louchée, on arrive très bien à travailler avec. Ou une bonne pioche aussi, mais avec des manches en fibre, vous savez, là, qui sont cassables, en fait.
Ah.
Parce que les manches en bois, il y a toujours des problèmes ici. Au bout de 2-3 fois, on tombe sur une pierre, ça casse très vite. Moi, je m'en sers 12 mois de l'année. J'ai une bêche qui a 3-4 ans, qui n'a jamais cassé, en fait.
Donc, si
donc en fibres qui ne se cassent pas. C'est un peu plus cher à l'achat, mais...
C'est un bon investissement, du coup.
Voilà, donc je pense qu'il faut le faire. Donc on va revenir sur la plantation. Donc toujours faire un très très trou, 2 à 3 fois plus gros que la motte ou que les racines. Donc après, comme on avait parlé déjà plusieurs fois, apporter un bon terreau de plantation, il faut le faire. Mélanger avec votre terre de jardin, bien tasser, bien arroser, et faire toujours une bonne cuvette autour. Minimum 30 litres au premier arrosage, 20-30 litres pour les gros arbres, les arbustes, ou après mettre un goutte à goutte si vous faites une haie ou sur la longueur, quoi. À savoir qu'en hiver, on n'arrose jamais, il faut toujours arroser entre 11h et 15h, pas plus tard.
À l'inverse de l'été, en fait.
Pourquoi, Alexia ?
Bah, je suppose pour éviter que l'eau ne se durcisse, ne gèle.
Voilà, bon, si, parce que si après il vient à geler, ça risque, au niveau de l'arbuste, de le faire claquer, quoi. C'est pas
oui,
bon.
Ce serait un peu dommage.
Donc il faut le faire toujours quand il y a la période du soleil, de 11h, 15h, pas plus tard, quoi.
D'accord.
C'est à retenir, parce qu'autrement, c'est pas bon pour les plantations que vous allez faire, quoi.
Mais donc, en hiver, on arrose quand même toujours autant ou comment ça
ah
se
non,
passe
pas du
oui,
tout. Non, en hiver, on arrose une fois tous les 10 jours, c'est bien. Si vraiment, il n'y a pas de pluie entre-temps ou quoi. Mais de temps en temps, si vous voyez que le sol est très, très sec, il faut arroser quand même.
Hein. Et comment est-ce qu'on sait que le sol est sec? Parce qu'en été, on sait qu'il jaunit, mais en hiver, ça se passe
après,
comment?
Après, on voit plus ou moins au niveau de la terre. Si la terre est humide dessus, ça se voit très vite. Hein.
D'accord.
Je pense qu'après, on le voit, parce qu'après, il pleut plus souvent à partir de l'automne ou quoi, mais c'est au jardinier, au jardinier, à regarder le jardin au niveau de la terre, comme elle se présente, si elle est humide ou pas humide, en fait.
Donc, bien rester en contact avec son jardin, donc.
Oui. Donc, après, on avait parlé, aménager l'espace à votre idée, Alex.
Oui, je serais curieuse de savoir comment faire.
Alors, comment on va faire ça? Dites-moi.
Ouf, je suppose qu'on va essayer de vous consulter, non? Parce que pour envisager les arbres, etc., je sais qu'il vaut mieux voir avec vous.
Dans un premier temps, je pense qu'on va choisir déjà au niveau des floraisons. C'est bien, quoi.
Varier, donc.
Voilà, donc varier, dire je vais mettre ça à tel endroit, un arbuste à tel endroit qui va fleurir au printemps, en été. Au niveau du feuillage, parce que le feuillage, c'est aussi très important dans un jardin.
Mm-hmm.
Je vais vous parler, donner un exemple. Là, un arbuste qui s'appelle le cotinus, il est magnifique parce qu'il fait une feuille rouge qui est très jolie et une petite fleur un peu blanche jaunâtre aussi qui est très beau, quoi. Après, au niveau des fruits aussi, parce qu'il y a des arbustes qui font des fruits sympathiques, rouge orangé aussi. Donc, voir un peu, je vais mettre un arbuste avec une couleur ici qui va ressortir avec un persistant. C'est important aussi, donc à dire je vais faire ça à cet endroit-là. Les massifs, pareil, dire je vais faire un beau massif de rosiers paysagers qui va être sur 3-4 mètres, qui va fleurir tout l'été avec plusieurs coloris, ou alors une seule couleur. Après, c'est à vous de voir les couleurs que vous aimez. Hein. Alexia, je sais qu'elle aime beaucoup le blanc.
Ah bon, vous êtes très au courant. Écoutez, même moi, je ne le savais pas, mais d'accord.
Non, je plaisante.
Moi, j'aime les couleurs, les jolies couleurs, le bleu, le vert.
Ouais, les couleurs variées, c'est très beau. Mm. Après, c'est pareil au niveau des haies. Donc, je pense que les haies, c'est à délimiter, à savoir ce qu'on va faire ou pas faire. Comme on a parlé l'autre fois, faire des petits endroits cosy, sympathiques, avec des patriotes, lauriers, des fusains, qu'on peut faire monter à 1 mètre, 1,20 m, faire un petit U pour faire un petit endroit à repos, c'est sympa. En mettant un petit banc au fond, on peut faire des tas de petits trucs, un petit bassin aussi éventuellement, pour pouvoir se mettre là, lire le journal, un petit bouquin.
Faire son feng shui, tout ça, quoi.
Donc c'est un petit endroit détente à choisir. Bien mettre, savoir où c'est qu'on va mettre tel arbre, un arbre... Le prunus suissardi qui va fleurir en première fleur de printemps, qu'après il fait une feuille rouge. Les érables, on a beaucoup d'érables panachés, les érables pourpres qui sont super beaux aussi. On va dire, je vais mettre ça à tel endroit. C'est pour ça, comme on avait parlé il y a 3-4 semaines en arrière, prévoir un petit croquis, dire je vais faire ça comme ça et ça, bien le prévoir à l'avance, c'est bien. Au moins, on arrive mieux à voir comment on va faire le jardin et on arrive mieux à le voir dans sa tête et ça se conçoit mieux après, quoi. Et faire des petits points de repère.
Et ça, c'est facile à faire, même si on a peu d'expérience en jardinage, Serge ?
C'est pas que ça soit vraiment facile, mais je pense que si on s'y prend à l'avance, comme je disais tout à l'heure, délimiter les endroits, il faut, c'est pour ça qu'en délimitant les endroits ou avec un cordeau, je vais dire là, je vais faire une haie sur un petit carré, je délimite. Ici, je vais mettre un petit arbuste comme ça, avec vous plantez un petit tuteur. De suite, ça vous donne des idées. On arrive à mieux faire le repérage du futur jardin, en fait.
Oui, histoire de bien l'implanter dans l'espace
Voilà, de
grâce au repère
bien
visuel.
l'implanter dans l'espace, dans notre tête, et d'aller voir déjà un petit peu les plantes chez les pépiniéristes, c'est mieux de se rendre sur place et regarder ce que ça peut donner,
Est-ce
quoi.
qu'il y a, est-ce que ça peut donner,
Et
effectivement?
surtout bien se faire conseiller, c'est très important.
Et ça, les pépiniéristes sont tout à fait habilités à donner des conseils.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais bon, des fois, il y en a qui sont pas très compétent, mais bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Non, mais c'est vrai, bon, j'ai eu pas mal de petits trucs qu'il fallait pas planter, que les gens ont acheté, quoi. Après, c'est pas bien, quoi.
Eh oui, c'est un peu dommage. Vous allez nous parler à présent des plantes odorantes, me semble-t-il.
Ça, c'est très très intéressant. Dans un jardin, les plantes odorantes.
C'est quand même plus sympa un jardin qui sent bon, quand même. Il faut dire ce qui est.
Donc il faut savoir que tout ce qui est plante odorante, on le ressent surtout le matin, de bonne heure et le soir. C'est comme ça. Donc les arbustes, on va commencer par les arbustes, l'osmanthus, très jolie, petite fleur jaune un peu blanc. Floraison septembre-octobre, c'est intéressant. Donc là, on est dans du persistant. Choisia, comme on a parlé l'autre fois, par contre, celui-là, il sent très très bon. Orangé du Mexique, floraison du mois de mars à mai, mais il fait toujours une après-floraison qui va commencer maintenant, septembre-octobre aussi. Persistant, mais celui-ci, par contre, quand vous passez à côté, vraiment vous le sentez. Il sent très fort et c'est super bon. Le seringa, que tout le monde connaît aussi, un arbuste super joli, blanc, floraison du mois de mai-juin. Pithosphorum aussi, que tout le monde connaît, qui ressemble un peu au choisia, mais un peu plus gros, on va dire. Le romarin, floraison printanière aussi, sympathique, parce qu'au niveau de la feuille verte, ça sent très bon. Le mahonia, qui est connu en Provence aussi, qui fleurit au mois de mars-avril. Il a une feuille qui est un peu. Il ressemble un peu au houx, on va dire, parce que la feuille pique un petit peu, très sympathique. Il fait une floraison jaune, c'est très très joli. Des grappes jaunes, c'est vraiment magnifique. Après, il fait une petite baie aussi bleue que les oiseaux adorent. Les rosiers que tout le monde connaît. Ah oui, Alexia?
Évidemment.
Floraison du mois de mai au gelé, donc c'est bien, quoi, c'est important. Et là, on a des couleurs très très variées. Le citise, pareil, très joli, des grappes de fleurs. Et une feuille verte et un bois vert foncé au niveau du tronc, mois de mai-juin. L'Eleagnus, qu'on a parlé plusieurs fois, vert pâle, qui fleurit à l'automne. Le lilas aussi, que tout le monde connaît, donc c'est sympathique. C'est une des premières fleurs de printemps, il y a pas mal de couleurs aussi, du rose, du mauve, du blanc. Après, on va passer dans les vivaces aussi, il y a pas mal de vivaces qu'on peut mettre. Les iris, floraison du mois de mai au juin. Il y a beaucoup de variétés dans les iris aussi, donc c'est à choisir. Hein. Les émeraudes, le mois de juillet, au mois d'août aussi, très sympathique. Le muguet que tout le monde connaît.
Le joli muguet de mois de mai.
Oui, du mois de mai, la fête du travail.
Ah, et bien, on n'a pas tout à fait les mêmes. Oui, aussi, ça marche aussi, ça marche aussi.
D'avril au mois de mai, floraison. Après, on a les œillets aussi, les œillets mignardises, juin-juillet, sympathique. Le thym, que tout le monde connaît aussi, qui sent très bon.
Très, très bon, oui.
Très, très, très bon. La lavande, pareil. Et après, on va passer dans tout ce qui est les plantes odorantes. Alors ça, je pense qu'il faut en mettre dans le jardin, parce que quand on passe à côté, vraiment, la verveine citronnelle, c'est super, arbustif. À peine vous touchez le feuillage, ça dégage une odeur. L'hysope aussi, c'est plus petit, mais c'est sympathique. L'origan. J'ai oublié la violette. La violette, c'est une petite fleur magnifique.
Ah oui, très très joli.
Très 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 beau. Ça sent vraiment très très bon. Le fenouil aussi, le fenouil. Avoir une touffe de fenouil, c'est rigolo parce qu'on s'en sert pour la cuisine. Hein. Ça fait une dégrappe de fleurs jaunes, c'est sympathique. Et le curry. Le curry, c'est super. Ça sent. Moi, j'adore l'odeur du curry. Quand on touche ça, ça a une odeur fantastique. C'est vraiment. Après, on est dans les grimpantes. On a le chèvrefeuille aussi qui sent très bon. Juin-septembre. Le jasmin que tout le monde connaît. Glycine, pareil. Et les rosiers, pareil. Floraison du mois de mai au gelé. Très, très sympathique. Mais moi, je pense que. Petit jardin, dans un jardin, il faut toujours prévoir à certains endroits de la sauge ou de la verveine, faire un peu mélanger ou du romarin. Il ne faut pas beaucoup en mettre, mais faire quelques touffes par-ci, par-là, que quand on va passer le matin en partant travailler, de suite, ça met de bonne humeur.
Ah oui, de bonnes odeurs pour mettre de bonne humeur, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut absolument pas mettre les unes à côté des autres, ou est-ce que des plantes, je veux dire, est-ce qu'il y a des plantes qui sont... Pas là, trop copine.
Dans ce que j'ai dit, non, mis à part le muguet qu'il faut le mettre à l'ombre, mais le reste, on peut mélanger, mais il ne faut pas trop serrer les plantes, c'est toujours pareil, parce que le romarin, ça devient quand même assez envahissant, il ne faut pas y mettre du serpolet à côté ou de l'hysope qui est plus bas, ça va l'étouffer, quoi, après. Donc il faut, quand vous voyez les variétés qui sont plus basses, il ne faut pas mettre un romarin à côté ou une verveine qui pousse quand même 0,80 mètres et qui prend du volume, quoi.
Très bien.
C'est à éviter, quoi, regarder. Il faut toujours regarder, vous savez, derrière dans les jardineries et tout ça, il y a des petites fiches derrière, regarder un petit peu ce qui marque à peu près, ça explique toujours plus ou moins bien.
Très bien.
J'ai oublié par contre les bulbes aussi qui sentent très bon. Mm-hmm. Il y a les lys, les frésias, les jacinthes et les narcisses aussi, tout ça, ça sent
magnifique,
très bon.
Magnifique, les narcisses, oui.
Ouais, très très beau, il y a beaucoup de couleurs aussi, hein. Les plantes à massif aussi que j'allais citer. Les giroflées de Nice, floraison du mois de juin à septembre. La ravanelle aussi, ravanelle de Nice, mars à juin. Les géraniums odorants, ça sent très très bon. Et le lantana, que tout le monde connaît, il y a beaucoup plus de couleurs. Ça, pareil, quand vous touchez le feuillage, ça a une odeur vraiment surprenante. On en met dans les massifs, dans les jardinières, c'est super bien.
Donc beaucoup d'idées pour votre nez et pour vos yeux, puisque ça va être très très beau et en plus ça sentira très bon. Donc de quoi satisfaire tous les sens. Est-ce qu'on a fait le tour des plantes odorantes, Serge, ou est-ce qu'on en a encore...
Oui, je pense, bon, il y en a encore d'autres, hein, dans les plantes odorantes, il y a beaucoup de trucs, mais déjà là on en a pas mal, mais déjà si vous arrivez à mettre ça, c'est pas mal, hein. Les lavandes, le thym, l'hysope, la sarriette, j'ai peut-être oublié aussi... Dans tout ce qui est plantes odorantes, vous pouvez regarder en allant chez le pépiniériste. Toutes ces plantes-là, ils y sont. On les trouve en jardinerie maintenant.
Et oui, c'est assez simple.
Il y a des grandes tables où c'est bien varié, c'est bien expliqué dessus. Donc, à choisir tranquillement.
Et toujours en planifiant ce qu'on a envie de faire pour revenir à l'aménagement.
Oui, il faut bien toujours planifier ce qu'on fait. C'est très important.
Pour un rendu exceptionnel à la fin.
Oui.
Alors là, on va passer à la partie qui m'interroge et qui me plaît le plus. On va parler des chats.
Nos amis les chats, que j'adore moi aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les animaux.
On aurait pu le deviner, Serge.
Les plantes toxiques, donc malheureusement, il y en a pour les chats, donc il faut faire très attention. On va commencer par les plantes d'appartement. On a les ficus. Les ficus, donc c'est pas à recommander ou faire très attention si vous en avez un. Voilà. Les philodendrons aussi, pas bon pour les chats. Calendium. Poinsettia, c'est ce qu'on achète souvent à la Noël, vous savez, ces plantes un peu rouges là.
Mm-hmm.
Donc c'est assez dangereux. Les Diefenbachia aussi. Ce sont ces grosses feuilles vertes et jaunes là. On voit qu'il monte assez haut quand même aussi. C'est très joli, mais bon, il ne faut pas que le chat s'amuse avec ça ou qu'il gratte les feuilles, quoi. C'est pas très bon. Rose de Noël aussi, donc c'est pas recommandé pour les chats. Dans le jardin, rhododendron, malheureusement, on va faire attention. Laurier rose, qu'on a parlé plusieurs fois. Delphinium, c'est une plante vivace qui va monter en hauteur. Il y a plusieurs couleurs. Les tulipes aussi. Jonquille, le muguet et poids de senteur aussi. Donc tout ça peut provoquer des gastro-entérites, des troubles rénaux ou cardiaque. Donc,
oui, c'est soyez quand bien même, prudent. Oui.
Dès que vous avez un problème là-dessus, il ne faut rien faire. Il faut aller de suite chez le véto. Hein. Il ne faut, surtout pas faire vomir le chat, pas lui donner du lait. Tout ça, ce n'est pas bon.
Directement chez le vétérinaire.
Directement chez le véto, sans attendre. Voilà.
Soyez bien prudent avec vos animaux domestiques.
C'est très, très, très important. Je tenais à dire merci à un monsieur super sympathique qui vient tous les jours. Moi, je le connais depuis 8 ans au terreau. Il vient tous les matins et tous les soirs donner à manger aux chats du terreau.
Ah.
Vous imaginez, moi, ça fait 8 ans que je suis à Manos, ça fait 8 ans que je le vois. Moi, j'ai sympathisé avec ce monsieur parce qu'il est très charmant, très gentil. Et il s'occupe des chats. Tous les jours, il est là. Il vient, il donne à manger au terreau.
Mais il y a énormément de gens qui ont la main sur le cœur, en tout cas pour les animaux. D'ailleurs, nous aussi, chez Fréquence Mistral, on a la chance d'avoir un petit rendez-vous des chats près de notre radio. Et une dame leur permet de se nourrir. Et vraiment, c'est super.
Moi, je dis bravo à tous ces gens qui s'occupent des animaux, qui... C'est super bien, quoi. C'est très important.
En sachant, je profite de cette petite parenthèse, puisque je ne sais pas si vous aviez écouté, mais une de nos petites jeunes de Manosque Vacances avait souligné la possibilité pour ceux qui le souhaitent de donner un coup de main à la SPA, qui cherche justement des gens pour promener les chiens ou s'en occuper, en tout cas passer un peu de temps avec eux. Donc là, les chiens, c'est à Manosque et les chats, c'est à Valensole. Donc si vous avez un peu de temps à donner, n'hésitez pas. Vous n'avez pas à prendre d'animaux chez vous, surtout pour ceux qui habitent en appartement et qui ne peuvent pas. Mais en tout cas, vous pouvez donner de votre temps et peut-être rendre ces animaux un petit peu plus heureux. Voilà.
Oui, moi je pense qu'il faut le faire, c'est bien pour les animaux et ils ont besoin de nous en fait.
Et oui, et nous on a un petit peu besoin d'eux,
oui,
aussi.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Parce que les chats, ça rend heureux, et les chiens aussi, je suppose, même si c'est moins mon truc. Mais donc l'autre parenthèse sur nos amis les animaux se ferme, et nous allons à partir de maintenant parler des arbres à noyaux, et de leur taille surtout.
Donc les arbres à noyaux, ça va commencer par l'abricotier, le cerisier... Le prunier, il y en a pas mal. Hein. On ne va pas tous les citer. En fait, ces arbres-là, on peut les tailler, on va dire, après la récolte.
Directement donc, après.
Éventuellement, surtout éclaircir le milieu. Après, je vous dirai pour la seconde taille. Mais on peut tailler donc l'abricotier, le cerisier, le prunier au niveau, parce que c'est mieux pour la gomme. Éclaircir bien le milieu si vous avez des branches. Parce qu'il faut savoir que le principe de la taille, il faut que le soleil puisse bien rentrer à l'intérieur de l'arbre. Que ça pénètre bien, que l'intérieur de l'arbre soit toujours bien dégagé, en fait.
Ah oui, donc il faut bien libérer les branches.
Si vous avez des branches qui s'entrecroisent, tout ça, dans le milieu, vous coupez bien à ras du tronc, en faisant d'abord une entaille en dessous et après dessus, comme ça, la coupe n'est pas déchirée, c'est très important. Et surtout, bien cicatriser derrière, ça, c'est important.
Alors, on va peut-être rappeler à nos auditeurs comment est-ce qu'on cicatrise pour un arbre.
On achète un cicatrisant tout simplement en jardinerie ou coopérative éventuellement. Jardinerie, vous avez des pots qui sont prêts à l'emploi ou tout simplement de la chaux dans des pots d'un litre qu'on badigeonne avec un pinceau, comme il faisait avant, donc sans problème.
Est-ce que la chaux, c'est plus économique que le cicatrisant?
C'est un petit peu moins cher, je crois, d'accord. Oui. C'est bien la chaux, c'est pratique parce que une fois bien dilué, ça se passe bien au pinceau. On le nettoie bien après. Donc après, la taille des arbres à noyaux, en principe, se commence, on va dire, fin octobre, mi-novembre, jusqu'à mi-mars, on va dire. Non, fin février, début mars, pas plus tard. Parce qu'après, la floraison arrive. Là, on va dire, après, on va rentrer dans les tailles, si vous avez des vieux arbres un peu plus conséquents. Il faut éviter de faire monter les cerisiers, tous ces arbres, quand on voit des cerisiers qui sont très hauts, des pruniers ou des abricotiers, ça ne sert à rien en fait.
Hein. C'est un peu compliqué pour faire la cueillette après, s'ils montent
trop. C'est compliqué pour faire la cueillette, il faut aller chercher les fruits en haut. L'arbre donne au moins de fruits parce qu'il s'épuise sur les hauteurs, pas possible. Donc il ne faut pas avoir peur de le rabattre dans des proportions correctes et surtout bien cicatriser... derrière, comme je l'ai dit plusieurs fois, toujours se reculer plusieurs fois pour regarder la forme d'un arbre. En fait, l'arbre, il est beau à l'œil. Donc, quand on taille un arbre, bon, il y a certaines branches à ne pas couper. Les charpentières principales, si vous avez des grosses branches, il ne faut pas les couper. Mais vous coupez après toutes les branches qui s'entrecroisent, tout ça, trop basse aussi parce que ce n'est pas très joli. et bien se reculer. N'ayez pas peur de vous reculer plusieurs fois et retailler, regarder, dire cette branche-là, il faut la couper, elle n'est pas jolie, et je pense qu'après on arrive à faire quelque chose de correct. Bien cicatriser derrière, je le répète, mais bon, parce que beaucoup de jardiniers ne le font pas, donc je ne suis pas content.
Oui.
Et c'est pas bien du tout, parce que toutes les maladies rentrent par là, les insectes et les champignons.
Comme pour les êtres humains, au final.
Tout à fait, c'est pareil. Donc à surveiller ça. Après, on reparlera de la taille des arbres à pépins un peu plus tard, pommiers, poiriers. Donc là, je pense qu'on a fait le point sur pas mal de petits trucs sympathiques. On va parler de ce qu'on avait parlé la semaine dernière.
Votre opération du 4
Notre
septembre?
petit rendez-vous du 4 septembre au pied de la tour du Mont d'Or. Donc avec moi-même, Serge le jardinier, et la CAM des commerçants de Manosque. Donc je tenais à remercier la ville de Manosque pour les gants et les sacs. C'est super gentil. Monsieur Benjamin Robert, l'ami de pain, pour les charmantes viennoiseries.
Qui vont faire venir beaucoup de monde, on le sait.
Et j'ai eu encore une entreprise entre-temps que je connais très bien, qui va nous amener des 2-3 cagettes de pommes. L'entreprise Sika, Pomme Alpes, un monsieur très charmant, une entreprise super gentille qui va nous offrir des pommes pour ce jour-là. Donc c'est bien, on aura les viennoiseries, les pommes. Donc c'est l'entreprise Sika, Pomme Alpes, c'est super gentil de sa part aussi de contribuer à tout ça, quoi, c'est bien.
Avec un peu de chance, ça va motiver les troupes.
Oui, j'espère que ça va motiver les troupes. C'est important de travailler dans la nature. Il y aura, comme je disais l'autre fois, un petit cours de botanique sur les arbustes et les arbres qu'il y a sur place, où je ferai un petit truc, ça sera sympa. Je tenais à passer un petit bonjour à mes tontines,
Allez-y, allez-y.
qui ont un certain âge, et mon tonton Maurice, voilà. Donc vous voulez qu'on parle du programme
Ah ben
de...
oui, pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal pour dans 2 semaines.
Alors, ben, ça va être les fleurs d'automne, ce qu'on va
Ah.
planter à l'automne, donc toutes
Vous nous
les...
déprimez un peu à nous parler déjà de
Ah ben
l'automne, Serge,
non!
quand même, hein?
Il faut s'y prendre à l'avance, alors ça y est, on y arrive, hein, malheureusement.
Doucement mais sûrement, on y va, oui, c'est
On
vrai.
commence à avoir quelques petites fleurs dans les jardineries d'automne. Donc les fleurs d'automne qui vont fleurir enfin, tout l'hiver jusqu'au printemps pratiquement, c'est sympa d'avoir ça dans le jardin, quoi.
Oui. C'est très beau, très beau.
La taille de nos arbres de jardin, tout ce qui est les arbres d'ornement quoi, qu'il y a dans les jardins, savoir ce qu'on doit faire ou pas faire. Préparation du gazon d'automne. Donc, parce qu'en automne, on peut refaire le gazon, le ressemer, remettre en place, donc c'est à voir. Et quelques conseils d'entretien qui restent à faire pour la fin de la saison. Plantation de bulbes pour le printemps. Pensez au printemps pour les bulbes, ce qu'on va y mettre. Il faut le faire à l'automne. Après, un truc qui est pas mal aussi, parce que j'ai travaillé ces jours-ci là, et la semaine dernière, les vieux accès, comment faire pour les embellir.
Ah oui, ça pourrait être très sympa de savoir tout ça.
C'est un truc à voir et à faire. Je pense qu'il y a des trucs sympathiques, on en parlera donc plus profondément.
Eh bien, c'est parfait. Rendez-vous est donné pour dans 2 semaines. Merci beaucoup, Serge.
Merci Alexia parce que vous êtes super.
Oh, vous êtes trop gentil, Serge.
Monsieur Malabave et l'équipe de Fréquence Mistral qui sont super gentils. Donc merci, au revoir à tous.
On est ravis de vous avoir toutes les 2 semaines, en tout cas, Serge. Bonne journée à vous et à bientôt sur Fréquence Mistral.
Au revoir.